Pour ce premier message, cette première prédication, et tout ce qui est un peu premier est quand même symbolique, j'ai choisi la discrétion, la petitesse, l'anonymat même pour le Seigneur. Il y a dans la Bible des personnages bien en vue, très en vue, qui marquent de façon définitive, permanente, l'histoire de la révélation de Dieu. Ce serait pas difficile de citer des noms, hein. Moïse, par exemple, David, sans parler de Jésus, bien entendu, qui est à part, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre. Et puis, il y a des gens qui sont très anonymes, très discrets, et qui pourtant ont une efficacité, un service pour le Seigneur remarquable. La plupart d'entre nous, si ce n'est tous, nous faisons partie de ces anonymes, de ces gens discrets. Et nous allons voir comment nous pouvons nous aussi servir le Seigneur. Mais avant de lire un texte biblique, je vais vous poser une question qui n'est pas une devinette, ni une colle. D'après vous, quel est le couple le plus célèbre de l'Écriture? Marie-Joseph? Adam et Ève? Abraham et Sarah? Aquilas et Priscille? Oui, personnellement, j'opte pour la première réponse. Marie et Joseph. Je le place quand même au-dessus de tous les autres couples dans l'importance qu'ils ont eue par rapport à Jésus. Et j'aimerais parler particulièrement de Joseph ce matin. Et je vous invite à lire avec moi. Alors c'est un petit peu un retour en arrière, à quelques semaines en arrière, si on suit la chronologie un peu de la vie de Jésus. Dans Matthieu, chapitre 1er, versets 18 à 25. Évangile selon Matthieu, chapitre 1, versets 18 à 25. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète. Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui. Mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle lui enfantait un fils auquel il donna le nom de Jésus. Texte que l'on connaît bien, qu'on a peut-être relu ces derniers temps à l'occasion de Noël. Texte qui nous parle de Joseph. Et il y a très très peu de textes dans les évangiles ou même dans tout le Nouveau Testament qui nous parlent de Joseph. Luc ne parle de Joseph que pour dire qu'il était fiancé à Marie et qu'il monta à Bethléem pour le recensement et que c'est au cours de cette montée à Bethléem ou à Bethléem même que Marie a donné naissance à Jésus. Joseph et Marie, ou Marie et Joseph, le couple que Dieu a appelé pour être les parents de son fils Jésus, Jésus-Christ. C'est un appel. Il y a toutes sortes d'appels dans l'Écriture. Certains sont directs, comme celui des apôtres. Lors de certains déplacements de Jésus, il voit quelqu'un et lui dit « Toi, suis-moi ». Et la personne laisse tout et suit Jésus pour être son apôtre. Puis il y a des appels plus discrets, tels que celui de Joseph, par exemple, pour être le papa terrestre de Jésus. Quoi de plus commun que de s'occuper d'une famille? Quoi de plus particulier que de s'occuper de Jésus? Et l'appel que Dieu adresse à Joseph est tout aussi important que celui qu'il adresse à ses apôtres, ou à celui qui deviendra l'apôtre Paul sur le chemin de Damas. Chacun avait une mission bien particulière voulue par Dieu. Alors, la Bible ne nous dit vraiment pas grand-chose sur Joseph. Après la naissance de Jésus, où bien sûr Joseph est bien présent, la fuite en Égypte, et puis l'épisode de la visite du temple de Jérusalem lorsque Jésus a 12 ans, Joseph disparaît du paysage des évangiles. Marc, l'évangéliste, ne le mentionne jamais. Et Jean, l'évangéliste, ne le mentionne que pour dire que Jésus était fils de Joseph. La Bible est donc très discrète sur le personnage de Joseph. Est-ce que c'est parce que le vrai père de Jésus, c'est Dieu, ce qu'il rappellera à Marie et Joseph lors de cet épisode dans le temple à 12 ans? Ne dois-je pas m'occuper des affaires de mon père? Joseph n'en reste pas moins le père terrestre, celui qui s'est occupé de lui, celui de Jésus, celui qui l'a élevé, celui à qui il a appris un métier, son métier, charpentier, constructeur de maison. Cette absence de Joseph au moment où Jésus entame son ministère public a nourri la tradition catholique qui a distillé l'idée que Joseph devait être vieux lorsqu'il a connu Marie et qu'il est mort assez rapidement. Donc Marie est restée veuve. La Bible ne nous dit rien, absolument rien, ni dans un sens, ni dans un autre, en ce qui concerne la mort de Joseph. On peut supposer, personnellement, je ne vois pas pourquoi il faudrait que Joseph soit quelqu'un de très âgé, mais on peut supposer qu'au moment où Jésus commence son ministère, Joseph n'est plus de ce monde. Mais la Bible ne nous le dit pas. Elle nous dit que Jésus est appelé le fils du charpentier. Les gens disent, quand ils voient que Jésus commence à faire des miracles et à enseigner avec une sagesse remarquable, mais n'est-ce pas le fils du charpentier? Donc, le souvenir de ce charpentier de Nazareth était encore assez vivace dans l'esprit des gens de cette région. Dieu a confié une mission à Joseph, celui d'être le père de Jésus, de s'occuper de son éducation jusqu'à ce que Jésus devienne celui qui accomplira son ministère sur la terre, les 3 dernières années de sa vie. Penchons-nous un peu davantage maintenant sur cet homme Joseph. Nous avons lu tout à l'heure que Joseph était un homme juste, ou selon d'autres traductions, un homme de bien, ou encore un homme droit, un homme bon et droit. Cette expression veut dire qu'il était un fidèle pratiquant de la loi de Dieu, mais qu'il était aussi un homme bon. Il mettait sans doute un point d'honneur, puisque c'est ce qu'il caractérise, à honorer Dieu par sa vie et par sa bonté. Et il était tellement bon qu'il n'a pas voulu diffamer sa fiancée lorsqu'il apprit qu'elle était enceinte. Pour lui, à ce moment-là, il n'y avait pas de doute. Et c'est tout à fait logique, il n'y a pas 36 solutions. Marie avait couché avec quelqu'un d'autre, puisqu'il savait que ce n'était pas avec lui. Mais il n'a pas voulu, malgré cela, il n'a pas voulu faire d'elle un objet de scandale. Et c'est pourquoi il est écrit qu'il proposa, il se proposa de rompre secrètement avec elle. Et c'est vers cet homme que Dieu va se tourner pour en faire le père adoptif terrestre de son fils Jésus. Quel honneur être le père, le papa terrestre du Fils de Dieu lui-même, fait homme. C'est un honneur suprême qui vaut bien toutes les légions d'honneur du monde. Et pourtant, cet appel de Dieu n'est pas sans susciter quelques difficultés. D'abord, l'opprobre, le déshonneur. Il est le père d'un enfant qui n'est pas de lui, conçu on ne sait trop comment dans l'infidélité, la médisance, les moqueries. On sait bien ce que c'est. Et puis, et ça c'est peut-être le lot de chaque papa, de chaque père, mais de Joseph en particulier, de façon plus forte, la responsabilité. Sans s'y être préparé. Mais ça, il n'y a pas d'école pour être papa. Enfin, peut-être qu'il y a des livres, mais je ne sais pas ce qu'ils valent. Ça lui est tombé dessus, sans crier gare. Un beau jour, voilà, il est devenu comme cela, le papa du Fils de Dieu, sans qu'il puisse s'y préparer. Et puis, quelle vie, les dangers. Il faut fuir Hérode. Les routes incertaines, l'inconnu, un pays étranger, l'Égypte. C'est pas facile de devenir le papa de Jésus. Je reviens sur cette notion de bonté. Matthieu souligne, et comme il est très discret, et l'un des rares, si ce n'est le seul, à parler de Joseph, sa parole a encore plus de poids. Il souligne donc que c'est un homme bon, comme cet autre Joseph, curieux, dans le livre des Actes des Apôtres, surnommé Barnabas, dont le livre des Actes nous dit que c'était un homme bon. Est-ce qu'en général, les hommes ne sont pas bons pour souligner, particulièrement quand ils sont bons ? Imaginez ce qui peut se passer dans sa tête lorsqu'il apprend que Marie, sa fiancée, est enceinte. Il aurait pu se réfugier derrière la loi, c'était son droit. Il aurait pu, et c'est une note de la Nouvelle Bible Seconde qui dit, s'estimer obligé de répudier une épouse infidèle pour ne pas contracter une union impure. C'était la loi. Mais au lieu de faire intervenir la loi, il décide de la répudier, de s'en séparer secrètement, pour la protéger, pour ne pas la livrer en spectacle, comme la femme adultère que ces pharisiens, docteurs de la loi, protégés derrière la loi de Moïse, ont livré aussi en spectacle sur la place publique. À la vindicte populaire. Et cette expression « livrée en spectacle », on la retrouve dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 15, quand il est dit que Jésus, par sa mort, a publiquement livré en spectacle les démons, enfin les puissances démoniaques. Voilà, donc là, c'est une victoire. Mais pour Marie, il ne fallait pas, parce qu'il l'aimait, parce qu'il était bon, parce que même s'il n'approuvait pas, ou s'il condamnait, ou s'il ne comprenait pas bien pourquoi elle a fait cela, il a agi avec bonté, avec amour, avec discrétion. La justice ou la bonté de Joseph, qui n'était plus celle de la loi, a consisté à agir dans l'intérêt de celle qu'il a crue fautive, de la protéger de la vindicte populaire, toujours friande de ragots et de médisance. Il a tenu compte de ce qui était bien pour elle et n'a pas cherché à lui faire payer le prix de sa faute présumée. Le livre des Proverbes, chapitre 19, verset 26, nous dit « Ce qu'on apprécie chez un homme, c'est sa bonté. » Je crois qu'ici, le mot « homme » regroupe aussi les femmes. Ce qu'on apprécie chez une personne, c'est sa bonté. Joseph était de cet esprit-là. Et puis Joseph a su discerner la volonté de Dieu et l'accepter. Cette volonté de Dieu qui était grosse comme une montagne. Derrière la parole de l'ange qui lui est apparue dans un rêve, dans un songe. C'est pas facile de se réveiller d'un rêve, d'un songe, en pleine nuit, et de dire « c'est Dieu qui m'a parlé ». Comme vous, je suppose, il m'arrive de rêver. Parfois, c'est très agréable. Certains rêves sont formidables. On se réveille, puis on se dit « ah, c'est pas la réalité, c'était un rêve ». On le regrette peut-être un peu. Parfois, c'est un cauchemar et on est content de se réveiller et de dire « ouf, c'est pas la réalité ». Mais Joseph a une telle sensibilité spirituelle, ou peut-être est-ce le Saint-Esprit qui le lui a imprimé dans son cœur, qu'il sait faire la différence entre un simple rêve qui par définition n'est pas la réalité et la voix de Dieu qui lui dit la réalité, j'allais dire la réalité vraie, la vérité vraie. Et puisqu'il est persuadé d'avoir entendu la voix de Dieu derrière son rêve, convaincu d'avoir entendu la vérité, il accepte cette réponse incroyable. Bien sûr que seul le miracle de Dieu peut provoquer, mais au moment où il la reçoit, c'est quand même assez gros. Bien sûr, cette vérité-là lui est d'autant plus agréable que c'est celle qu'il préfère au fond de son cœur, car il sait maintenant que Marie l'aime, lui est fidèle, n'a pas fauté, ne l'a pas trompé. Ne voulait-il pas épouser Marie? Il était fiancé. Faire d'elle son épouse pour la vie? Dieu ne contrarie pas ses plans. Il ne vient pas lui dire « laisse tomber Marie, moi j'ai autre chose pour toi », non. Il les dépasse, il les rend plus grands, plus grandioses. D'un simple, j'allais dire, petit mariage ordinaire, comme tout ou beaucoup de mariages, il en fait quand même une vie, un couple, oui, le plus célèbre de toute l'Écriture et de toute l'histoire de l'humanité. Et là aussi, on est étonné de la simplicité avec laquelle Matthieu raconte ce changement d'attitude chez Joseph. C'est simple, c'est court, aucune question, aucun doute, aucune objection, la foi à l'état pur. Une fois mise en œuvre, immédiatement, pas de « il faut que je réfléchisse à tout ce que je viens d'entendre, est-ce que c'est vraiment la voix de Dieu, mais c'est... je vais prendre 15 jours pour prier ». Non, non, tout de suite. Il sait au fond de lui-même que c'est la vérité, alors qu'il pensait sérieusement se séparer de Marie. Il s'en rapproche puisqu'il prend Marie pour femme chez lui à partir de ce moment-là. Il se fait partenaire avec Dieu et avec Marie. Et il assume, il ne faut pas l'oublier, les moqueries inévitables des gens qui jugent sans savoir. Ah, il a été obligé de se marier. Bien sûr, c'est pour sauver la face. Évidemment, elle attendait un enfant. Mais quel retournement de situation! Quel bouleversement! Alors là, il y en a un de bouleversement. Et avec Dieu, les bouleversements ou les rebondissements sont surprenants. Ce qui semblait voué à l'échec, se séparer de Marie, celle qu'il aimait, devient glorieux. Ce qui semblait être fini, c'est terminé. Ma vie avec Marie, elle m'a trompé. Je ne peux plus continuer. Ça devient un commencement plein de promesses. L'ange qui avait parlé à Marie avant, bien sûr, de parler à Joseph et qui lui avait annoncé ce miracle, alors qu'elle dit, mais comment, je ne vais pas coucher avec aucun homme, comment c'est possible? L'ange lui dit, mais rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Pour cette année, tout est possible à Dieu. Il ne faut jamais dire, il n'y a plus d'espoir. Avec Dieu, tout est possible. Mais avec la bénédiction, la joie, Dieu place sur les épaules de Joseph de lourdes responsabilités. Sa vie ne sera pas facile, en tout cas au début. Après, on ne sait pas, mais au début. Mais Joseph les accepte sans sourciller. Probablement parce qu'il ne s'en rend pas vraiment compte. Il ne sait pas. Et fort heureusement, nous ne savons pas non plus tout ce qui va nous arriver. Chaque jour suffit sa peine, dira plus tard Jésus. Mais Dieu l'avait appelé pour être le papa de Jésus. Et il assume, quelles que soient les circonstances et les difficultés, sa responsabilité. La mission de Joseph, être papa, c'est ordinaire, mais c'est en même temps extraordinaire. Et nous ne savons pas sur quoi nos missions ordinaires ou nos petits travaux ordinaires dans notre vie ou dans l'Église peuvent déboucher. Ça peut devenir ou déboucher sur quelque chose d'extraordinaire. C'est Dieu qui en décide. Alors Joseph reste une figure humble de la Bible, et c'est ce que j'aime chez lui, et chez chacun d'entre nous. Je crois que l'exemple de Jésus, c'est aussi un exemple d'humilité. « Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ », écrit l'apôtre Paul aux Philippiens, un exemple de grande humilité. Sa vie ordinaire est restée cachée dans l'anonymat d'un charpentier de Nazareth. Et pourtant, il était là, présent, agissant, à une période cruciale de la vie de Jésus, celle où justement il avait besoin d'un père terrestre tout en ayant un père céleste et d'une mère terrestre pour s'occuper de lui. Jésus a grandi comme n'importe quel petit bébé, comme n'importe quel petit enfant. Il a appris à lire et à écrire comme n'importe quel petit enfant. Il a joué avec ses camarades, il a appris à travailler le bois. Voilà, il est devenu lui-même le charpentier. Il me fait penser à tous ces anonymes qui n'auront pas laissé de traces dans l'histoire de l'humanité, dont aucune rue ne portera jamais le nom, et à qui pourtant Jésus dira un jour, « Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. » Il avait donc deux qualités essentielles qu'il possédait au fond de lui-même et que j'aimerais que nous possédions tous et que j'aimerais posséder moi-même. Il était bon, il a cherché le bien de Marie, avant de revendiquer ses droits. Souvent, quand on est en voiture peut-être en particulier, ah, nos droits, c'est à moi de passer. Alors on force le passage. Ben, si quelqu'un veut passer à ma place, pourquoi ne pas lui laisser cette joie, après tout ? Joseph était bon. Et puis, c'était un homme de foi. Il a cru à ce que l'ange lui avait annoncé. Il a mis sa confiance en Dieu. Il a suivi la route que Dieu lui a tracée, petit à petit. Dieu ne lui a pas montré tout ce que Jésus allait devenir plus tard, non ? Jour après jour, petit à petit. C'est un homme simple, fidèle, aimant, que nous présentent les évangiles. C'est un homme dont la tâche consistait à travailler dans l'ombre, des années obscures. Quand je dis années obscures de Jésus, je ne veux pas dire obscures dans le sens où ce n'était pas dans la lumière, caché, non. Mais obscures parce que les évangiles ne nous disent rien, sauf quand il avait 12 ans, sur ces 30 années de la vie de Jésus. En fait, nous n'avons que 10% de la vie de Jésus. 3 ans, des 33 ans, je ne sais pas si ça fait 10%, mais enfin bon, on ferait le calcul plus précis. 3 ans de la vie de Jésus, mais quelles années pleines, quelles années qui ont marqué l'histoire de toute notre humanité. 3 ans qui ont bouleversé le monde. Et de ces 3 ans, il y a 3 heures qui ont bouleversé le monde, celle où Jésus est sur la croix, où il deviendra le sauveur de tous les hommes, le Seigneur Jésus-Christ. Alors même si la Bible ne parle pas de ces 90% de la vie terrestre de Jésus, cela ne veut pas dire qu'elles n'ont pas compté pour lui. Ce sont des années importantes où il a vécu comme le fils du charpentier. Et là aussi je suis frappé de toutes ces années de préparation que Dieu accorde à ses serviteurs avant de les mettre sur le devant de la scène. Et je crois que Jésus a aussi, en tant qu'homme, a été préparé à son ministère pendant ses 30 ans. Abraham a été appelé à 75 ans. Moïse à 80 ans. L'apôtre Paul, après des années d'études au pied de Gamaliel. Et Jésus, après une vie professionnelle, charpentier, fils de charpentier. Alors je pense à tous ceux dont la mission consiste à travailler dans l'ombre pour que d'autres agissent devant les hommes, comme Joseph a travaillé dans l'ombre pour que Jésus puisse agir ensuite devant les hommes. Je crois que Joseph a été l'éducateur de Jésus. Et je pense à ce texte du chapitre 12, la première aux Corinthiens, qui nous dit qu'il y a diversité de dons, de la grâce, mais c'est le même esprit. Diversité de services, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Mais c'est un seul et même esprit qui opère toutes ces choses, distribuant à chacun en particulier comme il le décide. Et à mes yeux, Joseph fait partie de ces héros de la foi qu'on trouve dans Hébreux chapitre 11. Alors l'auteur de l'Épître aux Hébreux au chapitre 11 fait une liste de ce qu'on peut appeler les héros de la foi. Il les prend dans l'Ancien Testament. Et s'il fallait la compléter avec des personnages du Nouveau Testament, je ne serais pas étonné d'y trouver Joseph comme exemple d'obéissance, d'amour, de foi au Seigneur. Nous ne savons pas ce qu'est devenu Joseph. Il se perd un petit peu dans l'anonymat. Mais nous savons une chose. Il a accompli fidèlement la mission que Dieu lui a confiée, être le Père terrestre de Jésus. Et ça, c'est bien une noble tâche. Et bien qu'au cours de cette année, nous sachions rester humbles, fidèles, dans les petites choses que Dieu nous confie. Amen.